children's minister. Try to calm down.
Parole, politique.
Yes, we can.
I'm gonna show you how great I am.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, c'est encore le retour de Parole Politique, la saison numéro 2 qui va commencer dès aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de me rejoindre pour cette petite heure de musique, de folie, de l'histoire et surtout des sujets noirs, illicites et beaucoup moins chronologiques de ce qu'on avait entendu pendant la première saison. La première saison qui vient de rouler il y a 3-4 semaines, c'était pendant les vacances d'été. Donc, du coup, j'ai pris une petite pause juste pour me remettre, pour prendre de nouvelles idées et bien sûr pour commencer l'université encore une fois. Donc, je suis de retour avec une nouvelle saison à vous proposer. Et cette semaine, on va le débuter. Donc, merci beaucoup surtout à vous tous de me rejoindre et la. Le thème d'aujourd'hui, ce serait sur la Mexique et bien sûr plus particulièrement sur la guerre de drogue qu'on se retrouve au Mexique en ce moment. C'est-à-dire la marché selon le marché de drogue, selon l'UN, qui a généré plus de 320 billions de milliards plutôt en français en 2003 et qui représente en effet 1% du commerce global. Donc c'est un très grand marché, c'est un très grand thème. Dont l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et bien sûr l'Amérique du Nord avec les États-Unis, la plus grosse marché de consommateurs dans le monde, à part la Chine. Donc, merci beaucoup pour ça et puis on va commencer. Donc, juste pour un peu présenter le sujet. Donc, comme je vous avais dit, c'est un sujet qui a très affecté la Mexique. Il y a plus de 100 morts. Et 22 000 personnes qui ont disparu, 100 000 morts, et 22 000 personnes qui ont disparu depuis que le président Calderón de Mexique avait annoncé la guerre sur les drogues en 2006. Donc, comme toujours, nous aurons une épisode, une émission avec de la musique. Donc, je voulais un peu donner un peu plus des différents genres, des différents thèmes, c'est-à-dire comme la musique rap qui est bien associée avec non seulement la marché des drogues, mais aussi la musique rock qui elle aussi a vu beaucoup de leurs artistes qui faisaient partie de cette marché, voilà. Donc nous aurons des artistes tels que Coolio, aussi les groupes Boston et The Red Hot Chili Peppers qui vont débuter sur cette émission. Donc voilà, on va commencer de suite à se mettre dans le bain. We'll be right back.
said, forget the day and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away.
Super chanson par Boston, c'est More Than a Feeling. Une chanson d'ailleurs qui a fait beaucoup de vues sur mon chaîne YouTube. Comment commencer cette émission? Ce serait bien de commencer surtout par la Colombie, que vous êtes certainement tous connaissants sur un certain Pablo Escobar, la plus connue autour du marché de cocaïne et qui contrôlait environ 80% du marché de la cocaïne. Et ça venant de son cartel, le Medellin Cartel, dans les années 70 jusqu'aux années 90. Donc ça c'est d'où d'ailleurs je vais commencer l'émission. Ce n'est pas l'origine de la drogue. Il y en a eu des centaines d'années de ça. Mais nous on va commencer de cette partie, comme ça l'émission serait un peu plus courte que les 5 heures qui étaient prévues. Donc, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la Colombie a cédé sa place en étant la pays la plus connue pour les drogues, la marché des drogues, à la Mexique? Pourquoi maintenant c'est l'émission sur la Mexique et non pas l'émission sur la Colombie? En fait, tout vient de ce que les autorités colombiennes ont décidé de faire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une décision de renvoyer les trafiquants, surtout les chefs, aux États-Unis pour faire les juridictions, pour être mis dans les prisons États-Unis au lieu d'être enfermés dans la Colombie. En fait, le problème, ça vient du fait que si les chefs de la drogue ou ceux qui sont responsables, ils sont toujours dans le pays, alors c'est un peu plus facile pour eux de toujours faire partie de la marché, de donner des ordres, de contrôler tout ça, que l'organisation en fait du Medellin Cartel par exemple ou Cali Cartel, ça reste inchangé malgré qu'ils sont en prison. Du coup, cette nouvelle loi qui a été mise en place, ça a changé complètement l'image de la marché, c'est-à-dire que maintenant l'extradition, comme on le dit, il y en avait moins en moins de contrôle pour cette cartel parce qu'ils ont dû chaque fois changer la chef, chaque fois changer l'organisation, la promotion de certains gens plus vite qu'ils ont été dus, et bien sûr le talent c'est peut-être pas aussi là, ils ont pas le même contrôle, le même respect dans ces cartels. Donc ça c'est la première chose qu'il faut se rappeler, c'est le fait que le Colombie a décidé de renvoyer leur criminels de drogue dans les États-Unis. Alors cela, ça évité pour éviter cela, Pablo Escobar bien sûr, il avait un peu peur d'être envoyé aux États-Unis. Du coup lui, il va réagir de façon agressive contre le gouvernement, autrement dit le Bogota. Avec une période de meurtres, des assassinations politiques, du kidnapping et du bombardement. Donc ça, ça dure pendant 6 années, à la fin du XXe siècle. Mais ce qu'on va voir, c'est que les cartels vont reprendre le pouvoir malgré cette nouvelle initiation très successive. Je cherche le mot en français, ça veut dire que ça a bien marché. Et du coup, ils ont repris, mais l'extradition, ça a enfin mis fin à la pouvoir que la Colombie avait sur le marché. Mais pourquoi alors c'est le Mexique qui n'avait pas trouvé la solution, malgré qu'ils ont eu le même problème que la Colombie? Mais plus tard, du coup, ils ont vu le résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette status quo, mais c'était le refus en fait de la part du gouvernement mexicain de faire ça. Et une des raisons, c'était leur incapacité de réduire l'activité des trafiquants en Mexique. Voilà, donc moi je voulais dire que c'est une bonne analogie pour de montrer tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous changez le CEO, le PCG d'une entreprise tous les 3 mois. Ça ne donne pas beaucoup de productivité à l'entreprise. Alors, on va être rejoint par Elton John qui va jouer son chanson Crocodile Rock. Ça, c'est la version live de Elton John, Crocodile Rock. Du coup, maintenant, on va un peu regarder comment les cartels, ils ont réussi à contrôler les régions et les populations dans le Mexique. Donc, comment ils l'ont fait? Ben, selon l'indice de perception de la corruption, c'était la corruption. Et ils avaient une moyenne de 35. Donc, sur l'échelle, c'est 0, ça veut dire très corrompu. Et une notation de 100, ça veut dire pas très corrompu. Donc en fait, avec une notation de 35, le Mexique s'est trouvé dans les 75 pays les plus corrompus dans le monde. Donc ce n'est pas une très bonne chose, et c'est pour ça que les cartels, ils ont réussi à contrôler les populations. Je voulais juste dire un petit exemple de ce que je veux dire par la corruption. Donc la disparition de 43 étudiants dans un bus, c'était dans une trajet de Iguala à Ayotzinapa, désolé pour la prononciation, c'était le 26 septembre, et ça c'était il n'y a pas 2 ans, quoi, c'était en 2014. Donc, ce qui s'est passé à l'abus, c'est qu'ils ont été tirés dessus et interceptés par des officiers corrompus. Et ils étaient transmis à des gangs de drogue. La présomption, c'est qu'ils sont morts, mais ils ne savent toujours pas. La suspicion, c'était que la mairie, c'était Ingwala Jose Louis Abarca, il avait passé l'ordre pour ce qui s'est passé par la crainte qu'ils allaient interrompre le discours de sa femme. C'était la veille. Donc, juste après l'événement, ils ont pris la fuite, et ce qui a augmenté les suspicions de leur participation dans cet événement. Donc, malgré que ça choque certains gens, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas... Non, pas normal, mais ça vient beaucoup des fois dans la société mexicaine. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas le seul exemple de corruption par là. Mais il y a aussi de nombreux problèmes concernant non seulement les kidnappings ou les meurtres, mais aussi le changement de la loi. De l'aide pour sortir de prison, c'est-à-dire même les exceptions de billets de stationnement. Donc, ce que j'avais trouvé par là, c'était que dans une partie de policiers, dans une station de police, il y avait même 400 des 1600 flics qui ont été virés pour un échec au test de la vérité par le maire qui avait été élu. C'était en Juarez, donc c'est une cité qui est très proche de la frontière Mexique-États-Unis. Et c'est Jose Reyes Ferez. Donc, maintenant, on va se lancer sur le morceau de Coolio.
Watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Donc ça, c'était la chanson que j'avais à souligner tout à l'heure, c'est Gangsta's Paradise, c'est par Coolio, donc c'est une chanson de légende dans le monde de rap. Elle est très appréciée pour moi aussi, qui n'est pas super fan de rap, mais quand même, c'est une bonne chanson. Donc, la chanson, c'était bien sûr du film Esprit Rebels, qui était sorti le 9 août en 95, et Stevie Wonder qui avait d'ailleurs chanté Gangsta's Paradise avec Coolio, à la cérémonie de Billboard Awards en 95. Et c'est le single le plus vendu de l'année 95. Écoutez, s'écoulé près de 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc c'était une très grande chanson à l'époque aussi. Donc, ce que j'ai parlé d'avant, c'était la corruption au Mexique. Donc, l'autre manière que les trafiquants qui ont contrôlé les populations, c'est aussi avec les gangs locales. Comme moyen de maintenir l'ordre, c'est-à-dire d'employer certains gens pour faire peur aux citoyens de la cité pour réussir à garder toutes les informations dans la cité qui n'a pas la, la communication entre les différentes personnes. Du coup, ça aide bien les cartels à tenir l'ordre et en effet être un peu comme les policiers de la ville. Donc, ils vont aussi investir. Non, il faut pas oublier, ils vont investir dans les communautés pour créer des liens, surtout le Sinaloa Federation. Donc, c'est la première fois que je dis ce mot, donc cette cartel, mais elle va être très prédominante dans cette émission. Et eux, c'est un des plus grands cartels dans le Mexique. Ils vont se rendre dans les autres marchés de criminalité. Ils vont pas se rendre dans les autres marchés de criminalité. Du coup, eux, ils vont rester uniquement sur les drogues. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont dans un marché qui n'est pas légal, en effet, ils vont pas être trop non plus dans les yeux des policiers, vu qu'ils font juste un truc, ce n'est pas aussi grave que s'ils faisaient aussi la cambriolage de ci, de là. Donc c'est surtout qu'ils vont créer un lien avec la communauté pour être aimés, pour les aider à trouver des emplois, etc. Mais en même temps, ils vont aussi pas aider les policiers, mais en effet, ils vont faciliter le travail du fait qu'ils ne sont que sur une seule secteur. Je voulais aussi dire, il y avait aussi le trafic des armes. C'est un sujet qui est très, très prédominant aux États-Unis en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions autour de si la deuxième amendement, ça devrait rester. Et c'est de là qu'en fait, il y aurait un trafic des armes de l'Amérique au Mexique. Parce qu'au Mexique, vous n'avez pas le droit d'acheter des armes. Du coup, on va voir d'une fait les drogues qui vont aller vers le nord et les armes qui vont aller vers le sud. Donc, ce qu'il faut savoir, qu'il y a certains États, comme le Texas, par exemple, c'est bien sûr la seule des États qui est frontière avec le Mexique qui le permettent, mais eux, ils vont avoir des lois telles que c'est simplement, il faut juste des documents pour acheter des armes dans le Texas. Mais ce qui se passe après, ce n'est pas la faute ni la responsabilité de l'acheteur. Du coup, tu peux aller en Texas, prendre les armes et, entre guillemets, les perdre. Et ils vont être reprises par les gangs. Du coup, ce n'est pas le problème de celui qui les a achetés, ce n'est pas sa faute. Donc, voilà un peu comment on a cette lien entre le Mexique et les États-Unis. Ce ne vient pas d'une seule sens, mais il y a aussi le sens inverse, c'est-à-dire les armes qui vont descendre vers le sud.
Reminds me.
Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Alors, nous allons maintenant parler d'une personne qui est très connue. C'est une personne qui ne va pas venir à tête de suite, mais il était dans tous les journaux mondialement. C'était l'année dernière, je crois. Et il s'appelle El Chapo. Donc, qui est El Chapo? Ben, c'est le plus grand. Ben, en ce moment, c'est le plus grand trafiquant de drogue dans le monde entier. Donc, il a été capturé au moins 4 fois. Et lui, il a venu en prominence depuis la capture en 2003 de son rival au ciel, Cardenales du Golf Cartel. Donc, pour parler un peu de lui, il fait partie de la Sinaloa Cartel. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous l'avais parlé du Sinaloa Federation. Donc, c'est ça. Donc, lui, il est responsable de toutes sortes de trafiquants de drogue. Donc, il s'agit non seulement de la cocaïne, mais aussi de la production, de le trafic et la distribution de méthamphétamine, marijuana, ecstasy et heroin à travers l'Amérique du Nord et en Europe elle-même. Donc, c'est cela qui va le distinguer des autres grands noms. Ce qu'on avait parlé, Pablo Escobar, parce que vous vous rappelez, Pablo Escobar, lui, il est seulement pour la cocaïne. Mais on va voir ici que El Chapo, lui, il a des grandes attentes, il a des grands rêves, et lui, il va non seulement aller sur une ou deux marchés, il va les faire tous. Donc, pourquoi il s'appelle El Chapo? Donc, El Chapo, ça vient de son taille, et lui, il n'est pas petit, mais il a 1m68. En français, j'ai trouvé la traduction, c'est Courtois. Donc, lui, il s'appelle Courtois en français. Donc, il a grandi de la pauvreté pendant son enfance, c'est-à-dire dans le Mexique, et il a entré dans le business du trafiquant grâce à son oncle, Pedro Perez. Donc, il a rejoint la cartel Guadalajara. C'est le nom espagnol. Donc, il a monté la hiérarchie du cartel et il est devenu célèbre pour ses actions contre les trafiquants qui sont en retard. Donc, c'est-à-dire que dès que quelqu'un est en retard, il le tue. Donc, c'est de là qu'il vient son réputation en étant du sang-froid. Donc, avec la montée de El Chapo, on va aussi voir le déclin des cartels colombiennes qu'on avait parlé d'avant, c'est le Medellin et les Cali cartels, dû à l'extradition qu'on avait parlé aussi. Donc, c'était juste avant que la leader du cartel est capturée que Guzman voit de nombreuses discussions sur le futur du cartel Guadalajara. Donc, c'est la cartel la plus grosse en ce moment, en cette période. Et au final, la territoire qui était contrôlée par cette cartel s'était divisée dans de nombreuses nouvelles cartels. C'était de la Tijuana cartel, le Juarez cartel et le Sinaloa cartel. Donc, lui, il va faire partie du nouveau création, c'est-à-dire la cartel Sinaloa. Et il va alors devenir un des plus célèbres trafiquants dans le monde entier et qu'on entend toujours.
Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Bam, your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a head with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations from these generations. Pay my dues,
knows how well they pay you. When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except I take one for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. Come up, you want this encore. I need you to scream to your lungs to soar.
Ça, c'est Jay-Z featuring Linkin Park. Donc, la chanson s'appelle Numb Encore. Juste pour vous parler un peu brièvement sur cette chanson. Donc, c'est une chanson qui était de B, entre guillemets, la chanson qui avait unifié les collèges en Amérique. Parce qu'en fait, c'est une chanson qui, à la fois, c'est sur la genre un peu emo, on va dire, de Linkin Park, mais à la même fois, well, rock aussi, on va dire. Mais il y a aussi le rap dedans, du coup, il y avait tous les fans de rap et tous les fans du rock, de toute cette genre de chansons, qui avaient écouté tous les mêmes chansons. Donc je trouve ça génial. D'où je suis maintenant, c'est-à-dire qu'on avait parlé un peu de El Chapo, donc j'avais parler qui avait pas mal de temps en prison. Bah, vu que c'est quelqu'un qui avait un très grand statut dans le marché des drogues, il s'est fait capturer pas moins que 3 fois par les forces policières. Et donc sa première capture, c'était en 93. Il était donné une peine de 20 ans pour le meurtre, bien sûr, et le trafic de drogue. Mais il s'est échappé avec la corruption. Donc, encore une fois, on va voir que la corruption rentre dans ce sujet. Donc, il a corrompu les gardiens du prison et le gouvernement mexicain et américain. Non, pas le gouvernement mexicain, excusez-moi. C'est que la corruption des gardiens du prison. Mais les gouvernements mexicains et américains, c'est eux qui vont offrir 8 millions de dollars pour les informations liées à sa présence, à sa location. Donc c'est quelqu'un que les gouvernements mexicains et américains déjà ils voient très très important, c'est-à-dire number one target de ces deux gouvernements. Ensuite il a trouvé sa deuxième arrestation en Mexique le 22 février 2014 et c'était dans l'état même de Sinaloa. Donc ça, c'était sans grande résistance. Pour parler un petit peu de ce que j'apprends, le Sinaloa, déjà c'est un état dans le milieu, voire sud de la Mexique. Donc c'est malgré que toute la violence se trouve plutôt vers les états frontières avec l'Amérique, vu que c'est très important pour contrôler ces endroits-là. La Sinaloa, c'est plutôt d'où tous les grands trafiquants de drogue, ils émergent. Donc c'est de l'état Sinaloa, et c'est là qu'ils ont trouvé Guzman, entre guillemets, El Chapo, la deuxième fois. Et puis celui qui était récemment, c'était en 2015, donc c'était l'arrestation, il était échappé en 2015, le 11 juillet, mais il s'est recapturé cette année, c'était le 8 janvier 2016. Même en 2015, c'était un tunnel qui était construit dans son cellule. Donc encore une fois, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de liaisons, qui a beaucoup de personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour que lui il réussisse à s'échapper. Donc voilà. On se demande alors la question pourquoi El Chapo c'est un exemple pour la population. Pourquoi il est aimé? Parce que je n'ai pas dit, mais en fait c'est quelqu'un qui est très respecté dans sa pays d'origine. Et on retrouve la réponse dans le fait qu'il y a à peu près 63 millions de personnes, donc plus que la moitié de la population mexicaine, qui vivent dans la pauvreté. Donc de plus, avec la manque de confiance dans les politiciens et les figures mexicaines, la peuple, ils ont besoin de quelqu'un pour regarder, pour donner d'inspiration, pour donner du rêve, pour dire voilà, ça c'est comment les Mexicains doivent faire les choses. Et du coup, cet espace s'était rempli par El Chapo. Bien sûr, El Chapo, lui, il a grandi dans cette même monde, dans le même monde de pauvreté, dans le milieu de la Mexique. Donc c'est pour cela qu'il est vu comme le leader, celui qui représente le rêve. Bah, je vais pas dire le rêve mexicain, mais le rêve pour beaucoup de monde, de l'argent, de l'influence. Il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent, qui sont pour lui. Donc avant l'émission, j'avais fait un promis que je n'allais pas couper les morceaux au milieu. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, du coup, il faut que je passe beaucoup plus de morceaux. Donc désolé si vous avez aimé cette chanson de MGMT, ce qui s'appelle Kids. Donc maintenant, toujours la même liaison, on va regarder un peu comment les cartels majeurs en ce moment dans le Mexique et à peu près tous leurs liens professionnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons regarder les cartels tels que Tijuana, Ciudad Juárez, non, ça c'est une cité. mais voilà, donc le Tijuana cartel, qui avait bien originé de la Guadalajara cartel, et aussi le Golf cartel et le Sinaloa cartel. Donc, la naissance des cartels mexicains, ça revient à l'ex-policier mexicain Miguel Ángel Félix Gallardo, c'est-à-dire The Godfather. Donc lui, il était le fondateur du cartel Guadalajara en 1980. Et il contrôle les couloirs entre le Mexique et les États-Unis avec son ami Albrego durant les années 80. Donc les couloirs, ils sont très importants. C'est de là que vous venez, d'où viennent tous vos profits, parce que si vous arrivez à l'entrée dedans, c'est la partie la plus difficile, on va dire. Donc, il a commencé avec la transportation de la marijuana et l'opium aussi. L'opium qui avait été prédominant depuis des années et des années. Et c'est à l'origine de heroin. Du coup, les portes, ils étaient déjà ouvertes pour le marché. Donc, ils vont entrer ces deux-là dans les États-Unis. Et c'est le premier à se lier avec les cartels de cocaïne en Colombie. Donc, je vous remets dans le passé, c'est-à-dire d'où les cartels Medellin et le Cali Cartel sont toujours prédominants. Et donc, lui, il va être le premier à se lier avec des personnes telles que Pablo Escobar pour l'aider. Voilà, je suis là, je veux vous aider avec votre projet. Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi de la responsabilité. Donc, il y a quelques croisements de la frontière qui sont très importants pour contrôler. C'est-à-dire le passement entre le Tijuana et le San Diego. Donc, d'où vient le cartel Tijuana? C'est un endroit très, très important. Ça, c'est dans l'état de Californie. On a aussi le Chihuahua, Juarez, entre cette ville, la ville la plus violente, je pense, de la Mexique en entier. Il y a beaucoup de reportages dessus. Et El Paso, en Texas, qui d'ailleurs, c'est un endroit très, très calme. Douglas et Agua Prieta, c'est aussi un grand passement. Et finalement, Laredo et Houston, qui est contrôlé d'ailleurs par les Los Zetas. Voilà à peu près. Donc, les trois premiers, je pense, ils sont contrôlés en ce moment par le Sinaloa. La plus grande cartel d'ailleurs, celle de El Chapo. Et bien sûr, la dernière, entre Laredo et Houston, c'est Los Zetas. Mais voilà, c'est très important pour ces cartels. Tijuana, il y a aussi le Tijuana cartel. Du coup, il y a un peu de violence entre ces deux cartels aussi. Mais je vais vous lancer une chanson de Frank Ocean. C'est la chanson de Coldplay même qu'il a repris. Mais il a un peu amélioré, je vais dire. Du coup, écoutez cela et dites-moi si ça vous plaît.
Strawberries on a swing. Every moment was so precious. I'm still kicking. I'm daydreaming on a strawberry swing. The entire all the world is at its end. Just in case, and that a bomb comes falling on my lawn, I should say, and you should hear, I've loved all the times, yeah. Say hello, then say farewell to the places you know.
Donc ça, c'est Frank Ocean avec la chanson de Coldplay. Ça s'appelle Strawberry Swing. Et ce que beaucoup de personnes trouvent, c'est que cette chanson même, C'est une chanson qui a pris une chanson très très heureuse de Coldplay, Strawberry Swing, cette chanson joyeuse et tout ça, et il a mis un thème apocalypse dedans. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est super, c'est génial. Donc recherchez celui-là si vous avez un peu de temps, c'est Frank Ocean, Strawberry Swing. Alors, on a un peu parlé du fait que le Mexique, c'est un peu le portail pour lequel les États-Unis vont recevoir leur consommation de drogue. Mais il faut pas aussi oublier qu'il y a aussi les Caraïbes qui ne trouvent pas très loin. Et en fait, les Caraïbes, ils vont avoir 40% des drogues qui vont passer par ces pays. Du coup, c'est aussi une voie très importante pour la transportation des drogues. Et on va un peu parler des Caraïbes maintenant, parce qu'on n'a pas encore parlé dessus. Donc, au niveau des Caraïbes, ça ne vient pas non par le Mexique, mais plutôt par la Venezuela. Donc, ça va partir du Venezuela au nord de l'Amérique du Sud. Et donc, ils vont entrer par des territoires américains, tels que Puerto Rico et les îles Virgin des États-Unis. Donc, de là, ça va être beaucoup plus facile pour rentrer dans les États-Unis, vu que c'est des territoires américains. C'est alors de là que des États tels que la Floride, c'est trouve sur le côté est des États-Unis, c'est un des États le plus vers le sud. Donc autrement dit, c'est pas très facile, mais c'est très c'est évident que c'est une voie d'où peut facilement entrer les drogues, et c'est une location idéale en fait pour les Caraïbes qui ne se trouvent pas très loin de cet État. Donc Et bien sûr aussi, il y aurait des bateaux qui vont aller en direction de l'Europe, qui vont venir ici. Et donc c'est du Venezuela et des îles des Caraïbes que ça va être l'origine du destination. Donc voilà, donc je vous avais averti tout à l'heure qu'on allait parler un peu sur les différentes cartels. Donc voilà, en ce moment, il y a les Juarez cartel, le Gulf cartel, il y a aussi le Sinaloa cartel qu'on avait parlé, il y a la Familia Michoacana, Los Zetas et le Gulf cartel, si j'en ai pas encore dit. Donc les États mexicains qui sont directement à côté de leurs voisins américains, ils sont très disputés. C'est des endroits qui sont très importants, il y a beaucoup de profits qui vont venir dessus, et donc c'est les États qui vont avoir la plus de violence à part l'État Sinaloa. Donc ces États qui sont très dangereux à traverser, ils ont été soulignés par l'État américain pour les touristes américains qui vont aller on fait des trajets d'Amérique en destination du Mexique. Donc ces États, c'est le Chihuahua, le Sonora, le Baja California et le Tamaulipas. Donc, bien sûr, ces États sont à éviter selon les autorités américaines, sauf si, bien sûr, c'est une urgence. Donc, du coup, c'est un très grand problème pour le gouvernement mexicain, surtout qu'eux, ils vont devoir recevoir les touristes, mais à la fois, il faut aussi dire, en fait, il ne faut pas peut-être venir ici parce qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas tranquille. Donc, pour la plupart, le Sinaloa cartel, c'est la seule au niveau des alliés avec les autres cartels. Et c'est les États américains, on parle maintenant de l'Amérique, comme le Chicago et LA qui vont avoir des gangs dedans. Vous avez entendu sûrement les Bloods and the Crips. Donc, il y aura le Sinaloa cartel qui va avoir des accords avec eux, aussi en Chicago, et les Latin Kings and the Gangster Disciples. Faut pas oublier aussi New York, où les Latin Kings sont dedans aussi. Du coup, ces gangs, ils vont être la distributeur de la drogue. C'est la fin de la chaîne, en fait. Donc, la Sinaloa, ça va être beaucoup plus facile pour eux de distribuer après, pour faire le milieu, et eux, ils vont recevoir le plus des profits, parce que c'est eux qui ont fait la partie la plus importante, c'est-à-dire de faire entrer ces drogues dans les États des États-Unis.
job to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to.
Donc une refrain de Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Désolé pour ça, mais j'ai une super chanson à la fin que je veux absolument que vous écoutez. Du coup, voilà, j'ai dû faire des sacrifices. Si vous étiez à mon position, vous le feriez la même chose aussi. Maintenant, parlons un peu de Santa Muerte. C'est un peu la dieu de la mort. C'est The Grim Reaper en anglais. Je ne sais pas comment dire en français. Ah oui, la Camarde. J'ai déjà fait de mes recherches. Donc, la violence entre les cartels et les gangs dans le monde, de la trafic de drogue, ils devront chercher un endroit pour trouver la tranquillité. C'est-à-dire de faire beaucoup de choses illégales, de tuer beaucoup de personnes. Ça pèse lourd sur le cœur. Du coup, ils ont trouvé une écharpe avec Santa Muerte, ce qui est la figure symbolique et populaire en Mexique et des États-Unis pour le passage du monde à le ciel. Et comme j'avais dit, elle prend l'image de la Camarde. Donc, c'est-à-dire que les statues sont disponibles dans des variétés de couleurs différentes. Tout ce qui ressemble, qui ont des représentations différentes. Et surtout, ce qu'on entend, c'est que la noire est la plus populaire, la plus agitée. C'est un symbole de la mal aux autres. Donc, dans les cités, elle va remplacer le gouvernement, hein, les gouvernements peu effectifs, le gouvernement mexicain. Donc, elle va trouver une très grande place dans la protection de la communauté, des populations. Donc, comme à la fin, on avait parlé de El Chapo qui va devoir un symbole, qui va être l'idole de certains peuples mexicains. On va aussi voir Santa Muerte qui va trouver cet espace pour donner une raison de vivre. Mais malgré les liaisons entre Santa Muerte et la religion chrétienne, le Vatican appelle Santa Muerte une dégénération de la religion. Donc, ils ne s'entendent pas très bien entre les deux. Ils ne voient pas l'intérêt d'avoir Santa Muerte. Et voilà, ils sont disputés avec eux. Donc moi, je vais garder ça un peu en profond, juste pour vous faire un peu de l'essai. Essayez d'écouter ma voix quand même, mais sinon, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont entendu ce que j'avais dit aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Désolé que je n'étais pas là la semaine dernière. En fait, j'ai eu des problèmes au niveau des cours. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est aujourd'hui. Du coup, au lieu de 4 semaines, entre cette émission et l'émission prochaine, elle va être en 3 semaines, donc du coup ça va être le vendredi 4 novembre de 17h à 18h sur Fréquence Mistral. J'ai aussi dit à une de mes amies que j'allais dire un petit truc sur le Parlement européen des jeunes, parce que ça intéresse certainement beaucoup de monde. Donc si vous aimez la politique, si vous aimez parler avec beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes en fait, essayez de rechercher pour le Parlement européen des jeunes. C'est une super association. Pour vous aider à trouver votre intérêt dans la politique, pour toutes les choses, les événements actualités, par exemple le Brexit, etc. Donc n'hésitez pas d'aller chercher le Parlement européen des jeunes dans votre région. Il y en a plein de régions qui le font, surtout en Europe, dans mon pays pas maintenant parce qu'il y a le Brexit, mais bon, ça c'est autre chose. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook Jake Eaton Radio pour recevoir des nouvelles sur l'émission. Et pour des rappels, par rapport à quand ils seront diffusés en live. Et bien sûr, le podcast qui va dérouler juste après l'émission. Merci encore et à vous tous pour votre attention. Le mois prochain, ce sera le vendredi 4 novembre et on va faire un voyage à l'Asie de l'Est avec le Triad en Hong Kong. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous 17h-18h, fréquence Mistral le 4 novembre. Merci encore à vous tous et je vous souhaite une très bonne soirée.
Parole politique.
Yes, we can.
I'm gonna show you how great I am.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?